c'est parti. Alors, l'étude de ce matin, ça a été donnée il y a quelques années, mais c'est bien de temps en temps de faire une mise à jour, d'autant que, eh bien, on a des nouveaux visages depuis les années qui sont venues. Merci Seigneur, des nouveaux visages. Et on va un petit peu cheminer à nouveau pour certains, ou cheminer pour la première fois dans cette étude qui s'appelle « Les montagnes d'Israël ». Donc, en introduction à cette étude, je voudrais prévenir certains ou chacun que cette étude, elle a ses limites. Déjà, ses limites par rapport à mes connaissances, évidemment. Mais chacun peut continuer aussi ses recherches de son côté parce qu'il y a beaucoup de livres qui ont été écrits à ce sujet. Et en deuxième lieu, elle a ses limites pour ceux ou celles qui espèrent avoir des arguments à donner à d'autres personnes dans leur conversation, des musulmans, des non-chrétiens, des personnes qui sont opposées à Israël, et qui espèrent avoir des arguments irréfutables à proposer dans des conversations. Parce qu'on va étudier des faits historiques, mais aussi et surtout, on va étudier ce que dit la Bible à propos d'Israël. Donc, par conséquent, si votre interlocuteur ne reconnaît pas la Bible comme autorité, bien, vos arguments, ils vont tomber, évidemment. Et, quoique, il n'empêche que quand on montre que la Bible a annoncé des choses 600 ans ou 400 ans avant que les choses, ou même, oui, même 2500 ans avant que certains événements arrivent, voilà, c'est quand même quelque chose d'important. On peut se dire, oui, la Bible dit quand même la vérité. Dans ce cas, il faudra que vous continuiez des recherches historiques, si vous voulez vraiment. Mais c'est tout à fait possible, puisqu'il y a même des musulmans, j'ai entendu des musulmans dire qu'ils comprennent que les juifs sont revenus tout simplement dans leur pays, Israël, parce qu'ils ont été cherchés dans les événements historiques, tout simplement, sans même aller chercher dans la Bible. Donc, dans cette première diapo, on voit le psaume 126, c'est par ce psaume que je commence, 126 verset 4, un psaume prophétique qui dit « Éternel, ramène nos déportés comme tu ramènes les wadis dans le Negev ». Donc le wadi, ce sont des ouèdes, des rivières qui s'assèchent pendant la saison sèche et qui sont de nouveau très, très courants, l'eau est courante quand il y a la saison des pluies, c'est ça. Une petite généralité aussi au niveau des prophéties bibliques. Les prophéties bibliques peuvent se réaliser plusieurs fois, en fait. On n'a pas tellement le temps de parler sur ce sujet, mais on a vu certaines prophéties s'accomplir plusieurs fois. Par exemple, pour ce verset, c'est une prière et le Seigneur va ramener les déportés de Babylone un jour, du temps d'Esdras et de Néhémie. Mais il ramènera aussi son peuple à partir de la fin du 19e siècle, vous voyez, pour ce genre de prophétie qui peut s'accomplir plusieurs fois. Et bon, là, c'est un extrait d'un psaume de David et c'est vraiment une prière prophétique parce qu'à l'époque, il n'y avait aucune raison de dire « tu ramènes les captifs comme des ruisseaux ou comme des ouèdes dans le désert ». Puisqu'à l'époque, le peuple vivait dans un pays où il était souverain, avec un gouvernement, avec le roi David, et donc un peuple souverain sur sa terre. Donc on voit bien que c'est une prophétie qui va arriver plus tard. D'abord, quelques généralités. La question est à qui appartient la terre et plus spécifiquement la terre d'Israël. On va lire Genèse 13, versets 14 et 15. L'Éternel dit à Abraham, après que Lot se fût séparé de lui, « Lève les yeux et regarde depuis l'endroit où tu es, vers le nord, le sud, l'est et l'ouest, tout le pays que tu vois, je te le donnerai. » À toi et à ta descendance pour toujours. Or, on ne peut donner que ce qu'on a, d'accord ? par cette affirmation, Dieu dit qu'il est le propriétaire de la terre. Les Juifs peuvent dire que la terre d'Israël leur appartient parce que Dieu la leur a donnée. Hein. Ils ne l'ont pas gagnée. Ce ne sont pas des hommes ni des instances humaines, si haute soit-elle, qui leur a donné cette terre. C'est l'Éternel lui-même. Et les instances humaines n'ont fait qu'obéir à Dieu, sans le savoir, certainement, ou pour certains. Les Juifs ont été expulsés de leur terre par les autorités romaines en 135 de notre ère. Malgré tout, dispersés et chassés, le peuple juif n'a jamais cessé de vivre son identité. On va d'abord parler un petit peu de certains mots. Qu'est-ce qu'on appelle un juif ? Qu'est-ce qu'on comprend quand on dit un juif ? Le nom de juif était appliqué aux descendants de la tribu de Juda. Il a été donné aux habitants du royaume de Juda, donc les Judéens à l'époque. Et ça a été donné, ce nom-là, à Babylone, quand ils ont été déportés, à partir de 586 avant notre ère, avec la destruction du temple. Et le D de judéen en français est devenu F. Je ne sais pas trop pourquoi, mais en espagnol, c'est resté. En portugais, c'est resté. En allemand, c'est resté. Jude, hein, en allemand. Mais c'est devenu juif. Mais ça vient vraiment de judéen. On parle aussi d'israélite. Qu'est-ce que c'est l'israélite ? Eh bien, c'est le juif en France ou dans d'autres pays qui est fidèle à sa foi, qui suit tous les préceptes de sa foi. C'est celui qui pratique le judaïsme, c'est l'israélite. Donc on peut parler de français israélite, d'accord ? De juif israélite français, par exemple. Bon, le juif vivant en Israël aujourd'hui, l'israélien, d'accord ? Par contre, le nom « les Hébreux » était utilisé lorsque les tribus étaient encore bien distinctes. Ce mot « hébreu » vient du nom, le mot en hébreu c'est « ivrim », mais qui vient du verbe « avar » qui veut dire « traverser » et « passer ». Et en fait, le peuple d'Israël a toujours été un peuple qui en mouvement. Et aussi bien, bon, il s'est arrêté pendant plusieurs siècles sur sa terre, mais après, de par les différents exils, et puis ensuite dans la diaspora, il faut savoir que même avant que Jésus ne vienne sur terre, il y avait une grande communauté juive dans tout le bassin méditerranéen. C'est pas nouveau, hein, c'est pas seulement au moment de la dispersion en 135. Donc voilà. C'est pour ça que Dieu rappelle si souvent dans la loi de Moïse qu'il faut respecter l'étranger, il faut respecter le migrant, parce que Dieu dit vous-même, vous êtes un peuple de migrants. Donc attention au terme, parce que dire que les Juifs. Par exemple, qu'on fête à Pâques la sortie des Juifs d'Égypte. Non, là, c'est un anachronisme. La Pâque juive, ce sont les Hébreux qui sont sortis d'Égypte. D'accord ? Donc, à chaque temps, il y a peut-être un peu un terme différent. Mais comme ça, c'est un petit peu clair. Pendant presque 2000 ans, donc, ce peuple juif a vécu en tant que passant et migrant. Mais voilà que le Seigneur annonce au travers de ses prophètes un temps nouveau. Ézéchiel 11, verset 17. Le Seigneur l'Éternel vous déclare, « Je vous rassemblerai du milieu des nations, je vous recueillerai des pays étrangers dans lesquels vous avez été dispersés et je vous donnerai le pays d'Israël. » C'était loin d'être la première fois qu'il l'annonçait. Hein. Ézéchiel 36, verset 24. « Je vous retirerai des nations, je vous rassemblerai de tous les pays étrangers et je vous ramènerai dans votre pays. » Considérez bien que ces prophéties d'Ézéchiel ne pouvaient pas s'adresser aux Juifs déportés à Babylone ou aux quelques pays autour du territoire d'Israël. Parce que, regardez, je vous rassemblerai de tous les pays étrangers. En effet, il est question de beaucoup de pays. Donc, ça n'est pas une prophétie qui s'adresse aux Juifs qui vont revenir de Babylone, eh bien, d'un autre temps. C'est à partir de la fin du XIXe siècle que ces paroles vont trouver leur réalité. Et Ézéchiel est un prophète qui a été déporté, comme Daniel, et son ministère va s'exercer donc après 586 avant notre ère. Donc on est bien avant le XIXe siècle. Je crois que j'en ai raté. Non, c'est bon. Donc on va assister à un retour en plusieurs phases. On peut dire que c'est à partir de 1882 que vont commencer les alias. Qu'est-ce que c'est une alia? Alia, ça vient vraiment du mot en hébreu, du verbe ala, qui veut dire monter. Et c'est vrai que d'où que l'on vienne, c'est vraiment une habitude de dire qu'on monte à Jérusalem, même s'il y aurait quelqu'un du Népal, du Kilimandjaro, qui viendrait en Israël, on dit qu'il monte à Jérusalem. C'est comme ça. Et donc l'immigration en Israël s'appelle l'Alia. Entre 1882 et aujourd'hui, on compte 7 vagues d'Alia. Et la 7e est celle qui commence en 1948. Vraiment, c'est la plus grande. Elle compte plus de 2 700 000 de Juifs en provenance de 130 pays différents. On voit bien, on a en mémoire le texte d'Ézéchiel. Il rassemblera de tous les pays, des 5 continents. Ils vont venir s'installer dans le pays. Les chiffres concernent donc la période de 1948 à 2012, mais bien sûr la vague de 1948 est vraiment particulière puisqu'elle est provoquée par la Shoah. Et à cette époque, l'identité du peuple juif a atteint un paroxysme, certainement en réaction aux efforts du nazisme, cet effort à vouloir les détruire. Et parce qu'il y a vraiment eu un avant et un après au niveau de la mentalité juive, avant et après la guerre. Parce qu'avant la guerre, notamment pour les Français, les Juifs français, le désir des Juifs français, c'était vraiment l'assimilation. Beaucoup de Juifs n'étaient pas pratiquants avant la guerre et voulaient vraiment uniquement s'intégrer à la société française. Et c'est André Chouraki qui se demande dans ses mémoires si aujourd'hui il serait resté même des Juifs s'il n'y avait pas eu la guerre, tellement il y avait ce désir d'assimilation, et même si l'État d'Israël existerait aujourd'hui, si l'état d'esprit d'avant-guerre avait perduré. Vous voyez, vraiment, et d'ailleurs, même André Chouraki, c'est pendant la guerre, pendant les années de maquis, où il s'est caché, où il a résisté, où vraiment il a fait cette rencontre avec le Dieu de ses pères. Vraiment, et il l'explique très bien dans ses mémoires. Pour venir en Israël, ils utiliseront les bateaux. Est-ce que... Non, c'est moi qui vous lis. Le psaume 107, versets 25 à 32, qui dit « D'un mot, il fit lever une tempête, et les flots de la mer se soulevèrent. Tantôt, ils étaient portés jusqu'au ciel, tantôt, ils retombaient dans les abîmes. Ils étaient saisis d'effroi et d'angoisse. Pris de vertige, ils titubaient comme ivres. Toute leur adresse avait disparu. » Dans leur détresse, ils ont crié à l'Éternel et il les délivra de leurs angoisses. Il réduisit la tempête au silence, il apaisa la furie des vagues. Ce calme fut pour eux cause de joie et Dieu les guida au port désiré. Qu'il loue donc l'Éternel pour son amour, pour ses miracles en faveur des hommes qui le célèbrent dans l'assemblée de leur peuple, qui le loue devant le conseil des autorités. Et quel autre port pourrait-il désirer que la terre d'Israël? Et quand on lit ce passage et cette tempête qui est sur les flots, bien sûr, on imagine très bien un bateau dans la tempête, mais le peuple d'Israël a vraiment vécu la tempête pendant ces années de guerre. Ils ont vécu vraiment des temps d'effroi et d'angoisse sous le nazisme. Et donc, ils sont rentrés, pour certains, sont rentrés par bateau en Israël. pour venir en Israël, ils utiliseront les avions. Et c'est le prophète Ésaïe qui annonçait l'avenir d'Israël au temps de la fin, qui prédisait le retour sur la terre d'Israël. À savoir que Ésaïe, c'est un prophète plus ancien que Jérémie et Ézéchiel et qui a exercé son ministère dans le royaume de Juda, environ moins 740 avant notre ère. Ésaïe 60, verset 8, dit « Qui sont ceux-là qui viennent volant comme un nuage ou comme des colombes qui regagnent leur colombier ?» Allez relire le contexte. On parle bien de retour et de reconstruction. Et comment Ésaïe aurait-il pu écrire qu'ils allaient revenir avec des avions ? La seule image qu'il ait pu recevoir, eh bien, c'est ces oiseaux, c'est ces colombes qui reviennent dans leur colombier, qui volent. Pour que l'État d'Israël puisse exister, il fallait la langue qui est un élément vraiment fédérateur pour un peuple. Alors, on va revenir un petit peu du temps de Jésus. Et du temps de Jésus, on parlait trois langues. L'hébreu, l'araméen, le grec. Alors le grec, c'était plutôt la langue internationale de l'époque, un peu comme l'anglais aujourd'hui. L'araméen, c'était plutôt la langue qu'on utilisait pour tout ce qui était affaires. Quand on écrivait en araméen, c'était plutôt pour des contrats commerciaux, des contrats de mariage, des choses vraiment officielles. Mais l'hébreu était la langue, contrairement à si vous allez sur Internet, on vous dit que on parlait en araméen à l'époque. D'autres études et d'autres écrits nous montrent que les gens parlaient en hébreu. On va voir pourquoi après. C'était vraiment parler dans la vie quotidienne et aussi, bien sûr, à la synagogue. Jésus parlait probablement plus souvent hébreu qu'araméen, puisqu'on lit seulement environ trois mentions. Il me semble que c'est l'évangile de Matthieu qui dit trois fois trois paroles de Jésus en araméen. Il y a Talitha koum, il dit à un moment Abba, et l'autre c'est la fameuse prière de Jésus, ce cri de désespoir sur la croix, Eli, Eli, lama sabachthani. Donc pourquoi est-ce que Marc aurait mentionné tout spécifiquement ces trois passages en araméen? S'il parlait toujours en araméen, ça aurait été inclus dans toutes ces paroles. Le fait qu'il ait mis en avant ces trois paroles en araméen prouve bien que, exceptionnellement, Jésus parlait araméen, mais que, habituellement, c'était l'hébreu qu'il parlait, comme tous les gens à l'époque. Les langues pratiquées par les Juifs à la fin du XIXe siècle étaient le yiddish, mélange d'allemand et d'hébreu. Et pour le bassin méditerranéen, c'était l'arabe. L'arabe qui permettait qu'on s'exprime beaucoup mieux qu'en hébreu, parce que l'hébreu était resté à l'hébreu biblique, on va dire. On ne pouvait pas tellement parler de philosophie, on ne pouvait pas tellement parler de mathématiques. Donc on utilisait l'arabe, principalement, pour les livres d'études. Mais pour que tous les Juifs venant de tous les pays puissent se sentir à nouveau un peuple, il fallait justement cette langue commune. Et c'est Eliezer Ben Yehuda qui va faire revivre l'hébreu. C'est son fils qui va pour la première fois dire « papa » en hébreu, pour la première fois en Israël. Et c'est lui qui va vraiment créer cette académie, l'équivalent de l'Académie française, qui va créer le premier dictionnaire. Voilà. Et c'est très amusant de voir comment il prend l'hébreu biblique et puis voilà, qui le transforme, comment il dit un train à partir d'un char. Voilà, c'est très amusant cette renaissance de la langue hébraïque. Et il dit, non, c'est Roger Liebi dans son livre « Vivons-nous vraiment au temps de la fin » qui dit « Jamais une langue morte depuis plus de 1000 ans ne s'était mise à revivre et être parfaitement capable de fonctionner en tant que langue nationale. Ça a été vraiment le peuple d'Israël, là-bas, quand il est arrivé, a vraiment pris à cœur cette langue, et ils ont compris que ça allait être quelque chose d'unificateur, de fédérateur. Ce phénomène était annoncé par le prophète Ésaïe. Ésaïe 19, verset 18. « En ce temps-là, il y aura dans le pays d'Égypte 5 villes où on parlera la langue des Hébreux. » Alors, si on parle hébreu en Égypte, c'est qu'on le parle en Israël. C'est logique. Pour s'installer en Israël, il va falloir racheter la terre. Entre 1882 et 1940, les Juifs vont racheter la terre d'Israël à de grands propriétaires terriens, turcs et libanais. Une terre désolée à certains endroits. J'aurai des extraits de livres de anglais et français où des voyageurs vont décrire la terre d'Israël telle qu'elle était au XIXe siècle. Vraiment désolée à certains endroits, marécageuse. À d'autres, et ils vont la payer à un prix vraiment excessif, puisque c'était le désert ou les marécages. Sur ce point-là, un livre très intéressant de Jean-Marie Delmer, qui s'appelle « Les premiers pionniers juifs de 1882 à 1904 », un livre un petit peu ardu à lire, parce que vraiment, ce sont des faits. Et c'est un monsieur qui est connu à Lille, ancien professeur d'hébreu à Lille 3, historien. Il est décédé depuis longtemps. Mais on a la chance dans mon association d'avoir son épouse qui est historienne, elle, en tant que vice-présidente. Donc c'est vraiment, si on veut s'intéresser à toute cette partie-là, avec la réinstallation des Juifs entre 1882 et 1904, voilà, ce livre est vraiment très bien. Jérémie va prophétiser à ce sujet. Donc, le ministère de Jérémie, c'est environ 626 avant notre ère. Il avait reçu l'autorisation de Nebuchadnezzar de rester en Israël. Donc, Jérémie 32, 43, 44, et on achètera des champs dans ce pays qui est, selon vos dires, un pays dévasté, sans hommes ni bêtes, et livré aux Chaldéens. On y achètera des champs à prix d'argent. On rédigera des actes de vente que l'on cachètera devant le témoin dans le pays de Benjamin et aux alentours de Jérusalem, dans les villes de Juda et dans les villes de la région montagneuse, dans les villes de la plaine et dans les villes du Négev. Oui, j'accomplirai leur restauration, l'Éternel le déclare. Jérémie ne parlait pas du retour de déportation qui aurait lieu du temps de Cyrus et avec Esdras. Parce que dans ce retour, on n'a aucune mention sur le sujet d'avoir payé ces territoires et d'y revenir. Il est question des anciennes villes, des villes mentionnées en Israël qui seront reconstruites. Au cours des alias, les Juifs vont mettre en œuvre la reconstruction des villes. C'est le prophète Amos qui en parle, Amos 9, 14 et 15. « Je ramènerai les captifs de mon peuple d'Israël et ils rebâtiront les villes dévastées et ils les habiteront. Ils planteront des vignes et ils en boiront le vin. Ils établiront des jardins et ils en mangeront les fruits. Je les planterai sur leur terre et ils ne seront plus arrachés à la terre que je leur ai donnée, dit l'Éternel ton Dieu. » Il faudra une économie, et ça va être une économie qui va ressusciter, le Seigneur va bénir. À la fin du XIXe siècle, il faut savoir que le consistoire juif français était opposé à l'Alia, parce qu'il pensait que le pays ne serait pas en mesure de nourrir les gens qui arriveraient là-bas pour s'installer. Et David Ben-Gourion, David Ben-Gourion a émigré en Israël en 1907. On le lit bien dans ses mémoires. Et pendant qu'il y avait les gens qui étaient en train de replanter, de reconstruire, d'assécher, lui, il va faire le tour du bassin européen pour réveiller les autorités religieuses et pour les convaincre que le pays était à même de faire revenir les gens dans leur pays. Dans l'Ancien Testament, la viticulture était un secteur important de l'agriculture d'Israël. Et aujourd'hui, les vins d'Israël gagnent des prix internationaux. Les plantations de fruits sont nombreuses et Israël est devenu un grand exportateur de ces denrées. On peut constater que le désert refleurit, comme Ézéchiel l'annonçait. Ceux qui ont été en Israël et qui sont allés jusque de Jérusalem à Eilat, on traverse tout le pays. On traverse le désert, ce ne sont que des plantations dans le désert. Ézéchiel 36, versets 34 et 35. Au lieu d'offrir l'image de la désolation à tous les passants, la terre dévastée sera à nouveau cultivée. Et l'on dira, voyez-vous, ce pays jadis dévasté est devenu comme un jardin d'Éden, et les villes dévastées et démolies, qui n'étaient plus que des ruines, sont à présent restaurées et repeuplées. Le pays a vraiment vécu une transformation, même météorologique. Les Arabes qui étaient installés là, ils ont vu de leurs yeux ce changement météorologique. Ils appelaient les Juifs qui étaient là, dans le pays, ils les appelaient les Juifs de la pluie. Tellement même la météo a changé. Il y avait vraiment la bénédiction du Seigneur. Mais une terre pour les Juifs ne suffisait pas. Pour pouvoir y rester, les Juifs devaient être reconnus en tant que nation. Et donc la fondation de l'État d'Israël a eu lieu le 14 mai 1948, annoncée par un des pères modernes, David Ben-Gourion. Et là encore, la parole de Dieu l'avait prédit par la bouche d'Ésaïe. Ésaïe 66, verset 8. « Qui donc a entendu rien de pareil et qui a jamais vu rien de semblable? Un pays peut-il naître en un jour? Ou peut-on enfanter une nation en un instant? Or, à peine en travail, Sion a mis des fils au monde. » Depuis 70 ans, Israël s'est révélé être le quasi seul État démocratique de la région, à l'exception du Liban, bien que maintenant je modérerai un petit peu mes paroles par rapport à ce que j'avais présenté il y a quelques années. Aujourd'hui, le Hezbollah est bon, le président est là, il y a toujours des élections démocratiques, mais vraiment le pays est dirigé vraiment par le Hezbollah. Par contre, tous les autres pays sont des régimes autocratiques qui ne connaissent pas la démocratie. L'Irak actuel, même, est-ce que c'est un véritable pays, une nation, un État ? J'ai des doutes. Voilà. Dans sa déclaration d'indépendance, Israël a placé parmi ses valeurs fondamentales la justice, la paix, la liberté de conscience, la liberté de culte, d'éducation, de culture, une égalité de citoyenneté, à savoir des droits politiques et sociaux, à tous les citoyens, sans distinction aucune de croyance, ni d'ethnie, ni de sexe. Ça signifie qu'un musulman peut vivre librement sa foi en Israël. Vous avez dû voir des vidéos d'Arabes vivant en Israël et prenant la défense en disant qu'ils avaient vraiment... Ils savent qu'ils ne voudraient pas ni aller en Jordanie, ni aller dans le pays de Gaza. Ils savent qu'ils sont bien. Dès la création du jeune État d'Israël, David Ben-Gourion a dit lors de la déclaration d'indépendance « Nous tendons la main à tous les pays voisins et à leurs peuples, et nous leur offrons la paix et des relations de bon voisinage. Nous les invitons à coopérer avec le peuple juif rétabli dans sa souveraineté nationale. L'État d'Israël est prêt à contribuer à l'effort commun de développement du Moyen-Orient tout entier. C'est un appel à la paix qui n'a jamais été entendu par les voisins arabes, sauf par l'Égypte, mais 30 ans plus tard, ainsi que la Jordanie. Aujourd'hui, il y a aussi les Émirats arabes qui ont fait vraiment la paix avec Israël. Quelques points d'histoire. Pour mieux comprendre la situation d'aujourd'hui, il est nécessaire de faire une petite rétrospective historique. On va revenir à 1917. Entre 1917 et 1947, toute la zone était sous l'autorité britannique. C'était le mandat britannique. Avant, c'était la Turquie, mais après la Première Guerre mondiale, vraiment, ça a été donné à la Grande-Bretagne. Donc la partie en rose, on va dire, qui s'appelle la Transjordanie, c'était vraiment la partie où les Juifs n'avaient pas le droit d'émigrer. Et par contre, la partie gauche, la Palestine, était vraiment donnée aux Juifs, ceux qui émigraient sous vraiment certains contrôles, parce que c'était vraiment très limité. Et ça ne faisait qu'une seule région. On va voir ce qu'on appelle après les Palestiniens. Qui appelle-t-on les Palestiniens ? Le 26 novembre 1947, l'ONU adopte la résolution 181 qui fixe la création d'un État juif permanent et partage la langue de terre à l'ouest du Jourdain. Oui. La zone orange donc était dédiée aux Arabes habitant en Palestine. La zone bleue, ça a été donné comme État juif. Vous comprenez, vous voyez avec cette carte le cadeau empoisonné. Comment voulez-vous, aussi bien les Arabes que les Juifs, comment voulez-vous administrer un pays comme ça, morcelé de cette manière, avec une zone blanche, le petit centre blanc, c'est Jérusalem qui a été partagée. Donc d'où vient le nom Palestine et qui appelle-t-on les Palestiniens ? Donc à partir de la deuxième déportation, donc la première déportation étant celle du royaume d'Israël, c'est-à-dire toutes les tribus d'Israël, sauf la Judée et Benjamin. Donc à partir de cette deuxième déportation, les Juifs vont perdre la souveraineté sur leur terre. Exception faite, et on oublie souvent, et je ne connaissais pas avant d'avoir bien étudié, exception faite de une période entre moins 141 et moins 63, où les Juifs ont de nouveau acquis la souveraineté sur leurs terres. Malheureusement, vous voyez, 40, 60, oui, 80 ans. C'est ça, je ne me trompe pas. Souveraineté environ 80 ans. Hein. Et puis, ils ont été occupés par l'armée romaine. Les Palestiniens étaient les habitants de la zone géographique d'avant 1948 sous le mandat britannique. Ce terme, la Palestine, c'était les Romains hein, qui l'ont donné après 135, ils ont débaptisé. Et la Palestine, en fait, c'est la terre des Philistins. Palestine vient du mot philistin. Donc en tout cas, les Palestiniens étaient les habitants de la zone géographique qu'on a vue avant 1948, la grande carte, le mandat britannique. Il pouvait y avoir des Juifs palestiniens, il pouvait y avoir des Arabes palestiniens. D'ailleurs, les Arabes n'aimaient pas être appelés palestiniens parce que sinon on les assimilait aux Juifs. Et c'est vraiment au début des années 70 seulement que le terme véritablement de palestinien a eu la signification d'un peuple. Ce que nous appelons les Palestiniens aujourd'hui sont simplement des Arabes et ils le sont au même titre que les Jordaniens. Et en fait, ce phénomène de Palestiniens est tout à fait artificiel parce que les personnes qu'on appelle des Palestiniens n'ont aucune histoire. Il n'y a pas d'histoire de peuple, si ce n'est l'histoire de la Jordanie, l'histoire des Arabes dans cette partie-là. Mais voilà, en tant que tel, le peuple palestinien, en tant qu'histoire historique, le peuple palestinien n'existe pas. Ils sont devenus un emblème de réfugiés et de persécutés suite aux différentes guerres qui ont eu lieu en Israël. Le 14 mai, on va revenir juste, 48, l'État d'Israël donc fut fondé, et David Ben-Gourion s'adresse à la radio et dit « Ici, l'État d'Israël, 2000 ans ont passé, quand pour Dieu le temps est venu, personne ne peut lui résister. » Malheureusement, cette résolution est rejetée par la plupart des pays arabes et presque immédiatement, la guerre va être déclarée. Voici la liste des nations qui ont essayé d'anéantir Israël. La Syrie, le Liban, l'Irak, la Jordanie, l'Égypte, l'Arabie Saoudite, le Yémen. Et on va commencer à lire le psaume 83, versets 2 à 5, qui dit « Ô Dieu, sors donc de ton silence, ne reste pas muet. Cesse, ô Dieu, d'être indifférent. Voici, tes ennemis s'agitent et ceux qui te haïssent ont relevé la tête. Contre ton peuple, ils se concertent. Ils trament des complots contre les tiens que tu protèges. Ils ont dit « Exterminons-les et que leur nation disparaisse, afin que le nom d'Israël sombre pour toujours dans l'oubli. » Il faut savoir que ce verset a été cité par un des ayatollahs en Iran. Sans le savoir, il a dit ce verset « Exterminons-les et que la nation disparaisse, afin que le nom d'Israël sombre pour toujours dans l'oubli. » Voyez comment le Seigneur peut faire revivre sa parole d'une manière incroyable quand même. Le but de ces nations était d'effacer Israël de la carte du monde. On va continuer le psaume 89, versets 6 à 9. C'est intéressant de voir quels sont les peuples qui sont nommés dans la Bible. Ils intriguent tous d'un même cœur. Ils font une alliance contre toi. Les Édomites et les Ismaélites, les Moabites et les Agaréniens, Gébal, Ammon, Amalek et les Philistins avec les habitants de Tyr. La Syrie aussi se joint à eux. Elle prête main forte aux descendants de Lot. Donc, à quoi correspondent les noms des peuples cités dans ce psaume? Alors, la Jordanie correspond au peuple d'Édom, Moab et Ammon. Ça désignait des différentes régions de la Jordanie actuellement. D'ailleurs, la capitale de la Jordanie, c'est Amman. Ça vient bien du nom Ammon. On a les Ismaélites qui correspondent à l'Arabie Saoudite et le Yémen. Les Ismaélites, ce sont les ancêtres des habitants de cette terre, du Moyen-Orient, et ce sont les descendants d'Ismaël, le frère d'Isaac. Pour ce qui est des Agaréniens, ça nous renvoie à la Syrie actuelle. Gébal représente le nord du Liban et Tyr représente le sud. Amalek était un peuple qui habitait dans la péninsule du Sinaï, c'est l'Égypte. Et puis les Philistins qui habitaient l'actuelle bande de Gaza, donc qui représentent les territoires autonomes palestiniens. La Syrie, c'est l'Irak actuel. Donc l'alliance dont parle le verset 6 de ce psaume, toutes ces nations qui sont représentées, qui sont nommées dans ce verset 6, ce sont les nations qui ont signé, le 12 mars 1947 la Ligue arabe qui s'est créée à ce moment-là. Donc les peuples cités dans ce psaume correspondent bien à des nations existantes aujourd'hui. Et dans cette guerre, en 1948-49, hein, juste après la création de l'État d'Israël, et malgré l'embargo d'armes de la France, le général de Gaulle va refuser qu'on aide Israël. Israël a vécu une victoire écrasante. Et ceux qui étudient les stratégies de guerre, tout ce qui est dans l'armée, hein, y avait un général américain qui disait « La guerre qui s'est passée en 48-49 en Israël, on ne peut pas l'expliquer. D'une manière logique, on ne peut pas. » Tellement, oui, ça a été qualifié de miraculeux. Je me souviens de quelques histoires qu'un guide en Israël, ou la première fois que j'y étais, a expliqué, notamment des histoires avec les chars qui arrivent. Et enfin, c'était vraiment miraculeux. Ça ne peut pas être attribué ni au nombre supérieur d'Israël, ni à une supériorité technologique. Seul le Seigneur a pu donner la victoire au jeune État. Puis, en 1967, il va y avoir la guerre des six jours. Les pays arabes sous les... Oui ? C'est pas la bonne. Ah, j'ai oublié. Merci. J'ai dû oublier de passer la diapo. Voilà. En 1967, sous la direction de l'Égypte, les pays arabes ont voulu démarrer une nouvelle tentative d'anéantissement d'Israël. Et non seulement ce sera une défaite cuisante pour ces nations, mais Israël va s'emparer de la vieille ville de Jérusalem, ainsi que le mont du Temple. Jérusalem sera donc réunifiée, et ça c'est vraiment, vraiment important. Depuis 1897 ans, les Juifs n'avaient pas pu revenir au mur des Lamentations, qu'on appelait le mur des Lamentations, mais qui est tout simplement le mur occidental du temple de Jérusalem, qui avait été détruit en 70. C'est un signe primordial qui doit nous alerter pour les temps de la fin. Jérusalem a été détruite et elle a ressuscité, et Jésus nous enseigne à ce sujet. Dans Luc 21, verset 20, Jésus dit « Quand vous verrez des armées ennemies encercler Jérusalem, sachez que sa destruction est imminente. » Il parle de l'année 70 et de l'année 135. Et il continue, verset 24, « Jérusalem sera occupée par les païens jusqu'à ce que le temps de leur domination soit révolu. » Jean-Marc Taubois parle bien de ce problème de traduction qui dit le temps des nations, mais il faut vraiment le comprendre comme étant le temps de leur domination soit révolu. Et voilà que ce temps est vraiment révolu. Jérusalem est revenue sous la domination du peuple juif. On le lit dans le psaume 122, versets 1 à 3, qui dit « Je me suis réjoui quand ils m'ont dit « Allons à la maison de l'Éternel, nos pieds se tiendront devant tes portes, ô Jérusalem, Jérusalem qui est bâtie comme une ville bien unie, ensemble, en elle-même. » C'est vraiment la traduction en hébreu, j'aime bien moi, en hébreu qui dit « Une ville bien unie, ensemble, en elle-même. » Ces répétitions qui sont là. Et l'hébreu dit dans ce verset « comme une ville unique ou une ville une. » Donc, pendant cette guerre éclair, Israël a repris à la Jordanie le territoire qu'on appelle la Cisjordanie, la bande de Gaza et la péninsule du Sinaï et le Golan. Tous ces territoires n'appartenaient pas à ces pays, ni à l'Égypte, ni à la Syrie, qui était dans le Golan. C'était des zones qui étaient en jaune dans la carte jaune et bleue là. Elles avaient été laissées aux Arabes de Palestine. Et ces pays-là les avaient envahis, comme lors de la première guerre. Ils l'avaient envahi pendant la guerre de 48-49. Les médias parlent de la Cisjordanie et du Golan comme de territoires occupés, mais en fait, ils étaient déjà occupés par l'Égypte et par la Syrie. Il va y avoir la guerre de Kippour en 1973, le 6 octobre, à savoir que la fête de Yom Kippour est la fête la plus, on va dire, la plus redoutable, dans le sens où c'est un temps vraiment de, où le peuple se met à part. Il y a le jeûne, il y a vraiment, c'est un temps de pardon. C'était ce temps dans le Lévitique où le souverain sacrificateur entrait une fois par an dans le lieu très saint pour demander le pardon des péchés du peuple avec le sang. Et ce jour-là, le 6 octobre, ces pays espéraient reprendre les territoires perdus. Ils ont été soutenus, donc l'Égypte et la Syrie ont été soutenus par l'Irak, l'Arabie Saoudite, le Pakistan, le Koweït, l'Algérie, la Tunisie, le Soudan, le Maroc, le Liban, la Jordanie et même Cuba. 1500 soldats. La guerre a été déclarée pendant que tout le pays se trouvait à la synagogue. Ça nous rappelle un événement plus récent. Et d'abord, la guerre a été vraiment une catastrophe pour Israël. Il y a eu beaucoup de morts, plus que dans les autres guerres. Maintenant, voilà, ça c'est un texte que j'ose pas dire plus que ce qui s'est passé là maintenant, parce qu'on est vraiment trop à chaud dans ces événements. Le temps de mobiliser la réserve de l'armée, Israël a réussi à écraser toutes les troupes hostiles. Lors de 1947, l'ONU a décidé de tracer des territoires à leur gré. Ils ont créé des frontières à Israël. Mais que dit Dieu ? Genèse 13, versets 14 et 15, l'Éternel dit à Abraham, après que Lot se fut séparé de lui, on l'a cité tout à l'heure, « Lève les yeux et regarde depuis l'endroit où tu es, vers le nord, le sud, l'est et l'ouest, voici le pays que tu vois, je te le donnerai à toi et à ta descendance pour toujours. » Le Seigneur a promis aux enfants d'Israël la terre comme héritage, et même eux n'ont pas la liberté de la donner ou de la vendre à titre définitif parce qu'elle appartient à l'Éternel. Lévitique 25, verset 23, qui dit « Une terre ne devra jamais être vendue à titre définitif car le pays m'appartient ». Ézéchiel 36, verset 5. « Dans le feu de ma jalousie, je parle contre les autres nations et contre Édom tout entier, eux qui se sont attribués mon pays en propriété. Bon, » depuis, plusieurs guerres ont lieu et à chaque fois, on peut citer le psaume 33, versets 10 et 11. « L'Éternel dissipe le conseil des nations et il met les desseins des peuples à néant. Le conseil de l'Éternel subsiste à toujours, les desseins de son cœur de génération en génération. » Ça, c'est vraiment une assurance pour nous. En tout cas, quoi que fassent les hommes, le Seigneur aura toujours le dernier mot. Ce qui est étonnant pour moi, c'est de voir combien Israël est épinglé dans la politique internationale. Combien tout ce qui touche Israël provoque des prises de position très tranchées. On voit pourtant d'autres pays qui commettent des exactions. Je pense au Soudan, je pense même à la Corée du Nord. Hein. Très peu de personnes s'insurgent, très peu d'États le mentionnent, ou alors on en parle et puis après c'est fini. Mais Israël est le point de mire du monde tout entier. Et ça, ça m'a toujours interpellée. Alors que c'est quand même le seul pays du Moyen-Orient à être une démocratie. Ce qui est aussi étonnant, c'est cette entente des pays contre Israël. Des pays qui ne sont pas d'accord les uns avec les autres. Hein. Imaginons qu'ils viennent à détruire Israël, qu'Israël n'existe plus. Ils viendraient quand même à se faire la guerre les uns les autres, parce qu'ils n'ont aucun accord. Mais pour Israël ou contre Israël, ils sont unis. Et ça m'interpelle beaucoup. Pourquoi est-ce que contre Israël, les gens sont unis ? En tout cas, on va voir que ce qui est écrit dans la Bible est bien d'actualité. Et on arrive aux montagnes d'Israël. Là, c'est vraiment l'étude d'Ézéchiel 35 et 36 et voir combien ce texte est actuel. Peut-être on peut s'arrêter un petit moment et avoir un temps de questions. Si vous posez des questions qui concernent la deuxième partie, bah, je vais dire tout simplement, bah, on va le voir. Mais si vous avez des questions, peut-être, et ça peut permettre un petit peu de mettre un temps de repos à nos esprits.
S'il y a des questions, je ramène le micro.
Oui, je veux bien. Merci. Oui, merci.
Ah oui, j'ai une question.
Oui.
Tu parlais de l'anéantissement de l'État hébreu. Mais il y a aussi qui avait dit aussi la phrase qui avait dit auparavant, un pays arabe, c'est ça? Il y a autre là. Il y a autre là qui avait
écrit
la phrase.
Oui, le verset du psaume 83.
Voilà. Oui. Et Hitler avait dit aussi que je détruirais totalement les juifs.
Oui. Mais à l'époque, voilà, son désir, c'était d'éradiquer, de détruire un peuple disséminé partout. Mais dans le psaume, c'est vraiment, on parle de nation. Donc on comprend bien qu'on n'est pas dans le même temps qu'Hitler. Si le psaume 83 dit d'anéantir la nation, c'est que la nation existe. Or, cette nation, elle a été créée seulement, elle a été recréée officiellement en 48, en 47 avec la résolution des Nations Unies. Mais voilà. Donc oui, ça correspond. C'est vrai que tu veux faire comprendre que une prophétie, elle peut se réaliser plusieurs fois. Mais vraiment, elle est encore plus actuelle après la création d'Israël, ce verset dont tu parles.
Commencement, Dieu créa le ciel et la terre.
Oui.
Est-ce qu'il avait déjà dessiné la terre
Merci
d'Israël
beaucoup. Je te laisse la bouteille.
Ah, c'était déjà en place, je veux dire. Tout est en place. Parce que c'est un Dieu parfait.
Oui. J'aime bien dire, quand on étudie le verset 1 de Genèse chapitre 1, Dieu créa les cieux et la terre que tu cites, que tout était là. Potentiellement, tout était là. Quand on voit qu'au verset 2, l'entièreté de Dieu était là, en disant que l'Esprit de Dieu se mouvait, voilà, et que Dieu parle, donc on sait que la parole de Dieu, c'est Jésus, donc l'entièreté de Dieu était là, c'est que son plan était déjà là. Vraiment. Et pour moi, je crois que c'est un plan qui a été pensé tellement à l'avance. On le lit dès le chapitre 2, quand on lit que le talon de la femme va écraser la tête du serpent. On sait déjà que Dieu a vraiment tout prévu d'avance. Quand on lit comment le jardin d'Éden est là, on sent que Dieu a tout prévu d'avance avec cet arbre de la vie qui est déjà là, alors qu'ils avaient la vie à cette époque-là, mais l'arbre de la vie était quand même là. Donc oui, bah, bien sûr, on va pas dire « Ah oui, je vais te donner un verset biblique, ah oui, il avait déjà pensé à Israël avant tout. » Non, Mais tout était là.
Je vous demander aussi quelque chose. Pourquoi tant de haine pourquoi tant de haine pour ce pays, les Hébreux, puisque c'est les Hébreux. Hein.
Oui.
Pourquoi on leur veut tant de mal, tant
oui.
de mal
sur... Alors, je vais en parler dans la seconde partie. Mais la question va rester entière. La question va rester entière. C'est quand même assez, c'est quand même assez incroyable. Oui. Mais on va un petit peu en parler après. Oui. Oui, vas-y. Il y a Joshua qui a levé la main avant toi. Ah oui, c'est ma pardon.
Avant que les Juifs reviennent en, c'était la terre de Palestine qu'ils appelaient. Tu dis que la terre a été désolée.
Donc oui.
Il y avait plus... Mais il y avait quand même des Juifs et des Arabes palestiniens oui. qui vivaient. Donc ils étaient très peu nombreux.
Oui.
Et comment ils faisaient alors?
Et il y avait un petit peu d'agriculture, il fallait bien qu'ils mangent. Mais en règle générale, et on va le lire vraiment deux extraits de livres de voyageurs qui ont visité Israël au fin 19e siècle, et ils disent que c'était, mais désolé, que c'était, oui, effectivement, Jérusalem, mais c'était une petite ville de rien du tout, aucune importance dans l'islam aussi. C'est ça aussi qui est un peu...
Oui, bonjour. Merci d'abord pour tout cet exposé. Et j'aimerais m'arrêter sur un point de ton exposé par rapport à ce qui s'est passé à la Shoah. Dans ce que tu disais, si j'ai bien compris, les Juifs qui étaient répartis dans le monde étaient tellement bien que pour qu'ils puissent revenir et accomplir la prophétie, il fallait qu'il y ait cet événement, cette persécution, ce traumatisme, pour que beaucoup reviennent au pays. Notamment la conversion de cet homme que tu as cité là, dans les maquis.
Oui, ouais. André Chouraki.
Et moi, j'entends, je comprends ça. Et c'est vrai que les Juifs étaient sans doute très bien là où ils étaient. Ils auraient pu prospérer avec... Oui. Voilà. Mais du coup, ça suscite une observation, c'est... C'est vrai qu'on peut se dire, voilà, on sait qu'on vit dans un monde en guerre, que Satan a un pouvoir avec son armée, et que c'est horrible ce qui s'est passé, cette destruction de tous les Juifs. Mais en réalité, comme disait ma sœur, il y a un plan, Dieu règne,
oui.
Dieu a permis, Dieu a permis que Satan et son armée puissent... tuer. On voit des textes dans la parole où quand on ne respecte pas un petit peu les commandements de Dieu, ce que Dieu veut qu'on fasse, il laisse une ouverture. Dieu peut faire ça. Il peut libérer des esprits mauvais qui peuvent attaquer son peuple.
Oui, oui, oui. Vraiment. On ne, bien sûr, on ne peut pas dire, on ne pourra jamais dire que 6 millions de Juifs, ça justifie, hein, vraiment. Mais vraiment, les Juifs, ils se seraient, enfin, auraient été absorbés dans les autres pays. Et Dieu intervient de façon cyclique pour son peuple. Et je crois que ce qui s'est passé le 7 octobre de l'année dernière, c'est aussi, il faut que Israël le voie comme un cycle de Dieu. Et curieusement, la rabbine Delphine Horviller, un mois avant le 7 octobre, a prêché en avertissant les Juifs. Non pas de ce qui allait se passer, mais de l'état d'esprit. Donc oui, le Seigneur use de tout. Parfois c'est difficile, mais oui, Dieu est souverain, vraiment. Oui.
Du coup, tu parlais là du 7 octobre, donc avec pour l'instant cette guerre qui est juste avec l'Iran. Est-ce qu'il faut s'attendre à ce que d'autres nations se joignent à l'Iran? Est-ce que toutes les nations vont se joindre? Est-ce que ce sera seulement les nations des pays arabes? Et si jamais toutes les nations devaient se joindre, comment nous, on pourrait prier pour notre nation, pour la France, si jamais on s'est écrit dans le plan de Dieu qu'elle devrait se joindre à cette guerre?
J'ai lu quelque part que les Émirats arabes et tous ceux qui ont signé des accords de paix mettent en quelque sorte Israël devant pour que ce soit Israël qui règle le problème des Palestiniens, parce que eux-mêmes du Hezbollah, du Hamas et du Hezbollah, parce que eux-mêmes ils veulent pas intervenir. Donc il est possible que les autres pays arabes n'interviennent pas, parce que eux, ce qu'ils veulent, ils savent que la prospérité se trouve dans la paix. Mais qui peut prédire quoi que ce soit? Moi, je ne sais pas. Peut-être qu'il y aura un retournement de situation. Je ne sais pas. La suite de ta question...
Comment prier?
Oui. Oui, oui. Mais alors, comment prier? On va se retrouver une autre fois pour parler de comment prier et pour Israël et pour cette région, sachant que vraiment Israël, c'est on dit souvent que c'est l'horloge de Dieu. Hein. Ce qui se passe en Israël nous met en garde sur les temps de la fin, sur le temps dans lequel on vit. Donc c'est vraiment l'horloge de Dieu. On verra vraiment, ce sera vraiment un vrai sujet qui va être donné un jour.
Merci Hélène pour ce que nous vivons ce matin. Alors tu viens de dire que Israël, c'est l'horloge de Dieu. Mm-hmm. Et l'horloge de Dieu pour nous, en tant qu'Église, en tant que peuple de Dieu, et nous devons considérer l'horloge. Mm-hmm. Alors, est-ce que, je reviens sur la situation que Sylvain vient de présenter, que tu as présentée, que Sylvain a repris, la situation qu'a vécu le peuple de Dieu, ou alors les Juifs, a permis la reconstruction, ou alors la formation du peuple des Juifs, le retour du peuple juif. Et nous savons que dans la Bible, et chaque fois que le peuple de Dieu s'éloigne, Dieu, si vous permettez l'expression, se retire et permet qu'une nation se lève contre le peuple de Dieu pour ramener le peuple à sa position là où Dieu le souhaite. Est-ce que nous pouvons imaginer la vie du peuple juif à l'image de l'Église que nous sommes aujourd'hui? Est-ce que vous pouvez dire que Dieu peut permettre que son Église soit envahie pour ramener, pour réveiller son Église?
Oui. Là aussi, on aura vraiment un temps qui va être dédié à Israël et l'Église. Le plan de Dieu pour Israël, il suit le plan de Dieu pour l'Église. On est intimement lié au destin d'Israël. Et quand un chrétien comprend que le plan de Dieu pour son peuple, c'est le même que le plan de Dieu pour son Église, ça donne une nouvelle dimension dans la prière, surtout dans la prière, dans l'amour pour son peuple. Mais vraiment... On va vraiment passer du temps aussi dans une autre étude. Vraiment, l'Église et, du moins, Israël et l'Église. Vraiment, c'est très, très intéressant. Et oui, on va en parler vraiment tout en fin, très brièvement.
J'ai une petite question. On a lu tout à l'heure que Dieu avait donné le territoire d'Israël au peuple juif. Aux descendants en fait d'Abraham.
Oui.
Et si je ne me trompe pas, les musulmans se considèrent aussi descendants d'Abraham.
Et ils le sont.
Et alors comment on peut argumenter peut-être à ce niveau-là contre les musulmans en fait, nous, qui vont dire non, c'est notre territoire, puisqu'on est aussi descendants d'Israël, pas d'Abraham, pardon.
Oui. quand on balaye comme ça tout l'Ancien Testament, on voit que Dieu, génération après génération, à partir d'Abraham, suscite un peuple qui lui appartient. Et il le suscite à partir de Jacob et non pas d'Ismaël. À Ismaël, il donne des promesses, vraiment. Mais il ne donne pas la promesse de ce peuple. Et parce que le peuple est intimement lié à la terre, en fait. Et en plus, de génération en génération, on voit dans l'Ancien Testament comment on arrive à Jésus. Parce que Jésus, c'est vraiment celui qui va donner la nouvelle alliance. Et bon, je suis beaucoup plus loin, mais c'est bien. Un juif qui rencontre Jésus comme son sauveur personnel, dans les témoignages de ces gens-là, ils disent qu'ils sont des juifs complets. Parce qu'ils ont l'ancienne alliance et ils ont la nouvelle alliance. Le but vraiment initial de Dieu, justement avec Abraham, c'est de bénir toutes les familles de la terre en Abraham. On le lit dans Genèse 12, voilà, peut-être au verset 2 ou 3. Toutes les familles de la terre seront bénies en toi. Je bénirai ceux qui te béniront, je maudirai ceux qui te maudiront. Et donc, la finalité de Dieu, c'est de rassembler tout le monde en un seul peuple par Jésus. Mais Dieu s'est suscité un peuple au travers de Jacob, et il est clair à ce niveau-là. Et à ce peuple-là, il donne une terre. À Ismaël, il a donné d'autres promesses. Ça va, ça répond à ta question?
Ok.
Oui.
Si je comprends bien, donc dans Genèse 13, Dieu donne la terre aux Juifs, du coup, enfin aux Israël.
Aux Hébreux.
Aux Hébreux.
On ne va pas faire d'anachronisme.
Okay. Aux Hébreux. Et donc, ce que je ne comprends pas, c'est entre 1882 et 1904, tu disais que le peuple d'Israël...
Le peuple juif, disséminé.
Voilà, rachète, au final.
Oui.
Et pourquoi ils rachètent une terre qui leur appartient?
Parce que, et c'est ça qui est très injuste, c'est qu'ils sont obligés de racheter la terre qui appartenait à des propriétaires terriens.
Et ils l'achètent à qui? Aux Arabes?
Oui. Et là, je reviens sur le livre de Monsieur Delmer. Vraiment. Où la terre a été rachetée, et rachetée cher, pour dans l'état où elle était, disons. Hein. C'est comme si on achetait une ruine, une maison en ruine, à des millions, quoi.
Et si tu prends ton plan, ils ont racheté quelle terre? Parce qu'ils ont racheté des terres, c'est vague. Ils ont racheté, est-ce que par exemple la bande de Gaza, est-ce que Jérusalem, tout ça, c'est des terres qui ont été rachetées, et ensuite que l'ONU leur a imposé à séparer ou...
Oui, il y a des personnes en 48 qui ont été, et notamment, pendant la guerre 48-49, qui ont été mis dehors, des Juifs qui ont été mis dehors et qui avaient acheté leurs terres. Et c'est tout un problème.
Donc, la zone de gauche du Jourdain, on voit là ça avait été racheté par Israël, et ensuite l'ONU a
décidé de mettre des frontières,
malgré le rachat, de rediviser autrement.
Oui.
Est-ce qu'il les a payés?
Qui?
L'ONU.
Mais non, c'est pour ça que voilà, ils ont pris des décisions arbitraires, et en plus, mais ils savaient, en divisant, en mettant des frontières comme ça, que ça allait exploser. Ils le savaient. Ça a été une... Vraiment, l'Europe était très culpabilisée après la Seconde Guerre mondiale. Hein. Très culpabilisée de ne pas avoir protégé les Juifs, d'avoir refusé. Les États-Unis ont refusé à un moment que les Juifs émigrent aux États-Unis parce qu'ils estimaient que c'est bon, ils en avaient assez. Un si grand pays. Enfin, tout le monde occidental était très culpabilisé. Et ils ont donné, moi, ce que j'appelle une petite chaussette, là. Ce petit bout de aux Juifs, allez-y, et surtout qu'on n'entende plus parler de vous, C'était vraiment ça. Enfin, ça, c'est... Voilà. Mais oui. Ça va ? Alors, on va voir dans cette deuxième partie que ce qu'on appelle aujourd'hui la Cisjordanie, elle a toutes ses racines dans la Bible. Donc, les montagnes d'Israël. Les montagnes d'Israël, ça, c'est vraiment le thème du prophète Ézéchiel. C'est, les montagnes d'Israël, c'est les trois mots les plus répétés, c'est dans Ézéchiel. Ça, donc, ça parle de la région montagneuse qui est à la partie centrale d'Israël. C'est ces régions qui sont appelées la Judée et la Samarie du temps de Jésus. Donc, aujourd'hui, qu'on appelle territoire occupé. Et ce sont des lieux riches en signification biblique. Et beaucoup d'événements sont relatés, d'événements bibliques s'y sont passés. Bien sûr, Jérusalem, on a un pointeur ? Ah oui, mais il faut que je me retourne pour le pointeur.
Là.
Jérusalem, évidemment, hein. En 1046 avant notre ère, David en a fait sa capitale. Et Dieu la déclare comme lieu de son règne. Michée 4, verset 7. L'Éternel règnera sur eux depuis le mont Sion. Le mont Sion, c'est Jérusalem. Dès ce moment et pour toujours. Ouais. Bethléem.
Alors, Bethléem. C'est le numéro 3, donc c'est à côté, là, ici.
Bethléem. Rachel, mère de plusieurs tribus d'Israël, a été enterrée auprès de cette ville. Genèse 35, verset 19. Rachel mourut et fut enterrée sur le chemin d'Ephrata, c'est-à-dire Bethléem. 8 siècles avant notre ère, c'est le prophète Michée qui a prédit la naissance du Messie. Michée 5, verset 1. Qui dit « Et toi, Bethléem Ephrata, qui est petite parmi les villes de Juda, de toi sortira pour moi celui qui dominera sur Israël et dont l'origine remonte loin dans le passé, à l'éternité. » Hébron.
Hébron, numéro 4. C'est ici. Hein.
Hébron. Pardon.
Non, je l'indique mal, c'est ici. Oui, on est dans le désert.
On est près de Beersheba et tout ça, oui. Ça a été longtemps la résidence d'Abraham. Le lieu où on voit les chaînes de Mamré, etc., eh bien, ça se trouvait près d'Hébron. Abraham y a reçu plusieurs fois des promesses. Genèse 13, verset 18, 15, verset 18, 17, verset 7 et 8. Et David a régné à Hébron pendant 7 ans et demi. Ça n'est pas rien. Les villes d'Aï et Bethel.
6 et 7. 5 et 6, pardon. Et les voilà. Elles sont là. 5 et 6.
C'est entre ces deux villes qu'Abraham a construit son deuxième hôtel. Genèse 12, verset 8, il est parlé de entre ces deux villes, de chapitre 13, verset 3. À Bethel, Jacob a eu ce songe avec l'échelle et les anges qui montent et qui descendent. Et Jacob y a longtemps séjourné. Après, on a Silo. C'est
numéro 7, parce qu'on le voit, oui. C'est ici, Silo.
C'est dans cette ville que le tabernacle a été posé après la traversée du désert. Pendant de nombreux siècles, elle a été le lieu de culte. On peut lire ça dans 1 Samuel 1, verset 1. Ensuite, on a Sichem.
Le 8, voilà, plutôt là. Ici.
Sichem, aujourd'hui, c'est Naplouse. Hein. Et c'est là que l'Éternel a conclu l'alliance avec Abraham en 2036 avant notre ère. Genèse 12, verset 7, l'Éternel apparut à Abraham et dit « C'est à ta descendance que je donnerai ce pays. » Abraham construisit là un autel en l'honneur de l'Éternel qui lui était apparu. Jacob aussi y a séjourné. Josué, il a construit aussi un grand monument commémoratif de l'alliance avec le Seigneur, Josué 24, versets 25-26. Josué a conclu une alliance avec le peuple à cet endroit-là. Il a donné une prescription et une règle à Sichem. Et tout ça, ça a été écrit dans le livre de Dieu, de la loi de Dieu. Il a pris une grande pierre qu'il a dressée là, sous le chêne, qui se trouvait à l'endroit consacré à l'Éternel. Il y a eu aussi la momie de Joseph, qui a été enterrée définitivement à Sichem. Et toutes ces villes, donc, se trouvent dans l'actuelle Cisjordanie. Elles font partie de l'histoire du peuple d'Israël à part entière. Donc les médias et les nations s'indignent d'une injustice, mais le plan de Dieu concernant cette partie d'Israël s'accomplit. On peut voir que ces villes sont en plein cœur de ce qui est appelé par le prophète Ézéchiel les montagnes d'Israël. Le Seigneur a fait des promesses aux montagnes d'Israël. Ézéchiel 36, versets 8 à 10. « Quant à vous, montagnes d'Israël, quant à vous, Cisjordanie, habitants de la Cisjordanie, vous ferez pousser vos branches et vous porterez vos fruits pour mon peuple Israël, car ils vont bientôt revenir. Je m'occupe de vous, je me tourne vers vous et vous serez cultivés et ensemencés. Je vais augmenter votre population d'hommes, la communauté d'Israël tout entière. Les villes seront habitées, on reconstruira sur les ruines. Je vais augmenter votre population d'hommes et d'animaux. Ils se reproduiront et deviendront nombreux. Je vous peuplerai comme par le passé et je vous ferai plus de bien qu'auparavant. Vous reconnaîtrez alors que je suis l'Éternel. Et sur toi, terre d'Israël, je ferai marcher des hommes, mon peuple, Israël, et ils te posséderont. Tu seras leur héritage et tu arrêteras de les priver d'enfants. » J'aime beaucoup cette prophétie qui parle tant aux personnes, mais il va parler même à la terre, comme si la terre soupirait pour ce retour du peuple de Dieu. Donc Israël reviendra, on en a déjà parlé, mais à partir de 1882, les vagues d'immigration vont se succéder. Jérémie 23, versets 7 et 8, « Voilà pourquoi les jours viennent, déclare l'Éternel, où l'on ne dira plus « L'Éternel est vivant », lui qui a fait sortir les Israélites d'Égypte, mais où l'on dira « L'Éternel est vivant, lui qui a fait sortir et qui a ramené les descendants d'Israël du pays du Nord et de tous les pays où il les avait chassés. Ils habiteront alors sur leur territoire. » La prophétie est vraiment claire. On ne parle pas du retour d'esclavage d'Égypte. On ne parle pas du retour de déportation de Babylone. Il est question vraiment d'un tout autre exil. Un exil depuis les pays du Nord, c'est-à-dire l'exil suite à la destruction de Jérusalem en 70 puis en 135. La prophétie dit « Vous pousserez vos rameaux et vous porterez des fruits ». Donc avant que les Juifs ne reviennent progressivement sur leur terre, ce qu'on appelait la Palestine était une terre vide et désolée. Et je cite un livre écrit en 1866, William McClure Thompson, The Land and the Book, qui dit « Combien cette grande et désolation est attristante. Pas une maison, aucune trace d'habitants. Pas même des bergers pour alléger cette lourde monotonie. » Mark Twain, 1860, dans Innocents Abroad, des innocents à l'étranger, dit « Le saint endroit où les bergers veillaient la nuit sur leurs troupeaux et où les anges chantèrent « Paix sur la terre parmi les hommes qui l'agréent », ce saint endroit est vide de toute créature et les déserts les entourent. La vallée de Jisréel, autrefois fertile, était devenue un marécage infesté de moustiques dangereux. Le paludisme y sévissait. Toujours dans ce livre de M. Delmer, on y lit combien de gens sont morts du paludisme à force d'assécher tous ces marécages. De 1900 à 1990, Plus de 250 000 arbres furent plantés par les résidents juifs et ceux qui venaient visiter Israël. Et de nos jours, il y a de vastes forêts qui couvrent le pays, des orangers, des arbres fruitiers de toutes sortes. C'est surtout l'organisme KKL, un organisme juif qui travaille là-dessus. On peut faire du bénévolat chez eux pour aller encore aujourd'hui planter des arbres. La prophétie d'Ézéchiel dit « Vous serez cultivés et ensemencés ». Les champs fertiles de céréales, il faut voir, hein, la Galilée, ce sont que des champs aujourd'hui, céréales, coton, fleurs, légumes ont succédé aux marais. Chaque année, les champs cultivés s'étendent. C'est un pays qui comporte 60% de désert. Donc les techniques de gestion de l'eau sont vraiment à la pointe. Israël est le champion en matière de recyclage d'eau, puisque 90% de l'eau en Israël est recyclée. En Europe, c'est l'Italie. Mais l'Italie, elle est à entre 15 et 20% de recyclage. Après les autres, voilà, beaucoup moins, 90%. C'est une information du journal La Croix, 12 septembre 2016. Le prophète Ésaïe dit, chapitre 35, verset 1 et le verset 6 et 7, « Le désert et le terrain sec se réjouiront. Oui, de l'eau jaillira dans le désert et des ruisseaux dans la plaine aride. La plaine brûlante redeviendra un étang et la terre aride se changera en source d'eau. » Bon, non seulement l'agriculture se développe, mais avec les techniques d'irrigation, Israël est un pays de bénédiction pour d'autres pays, notamment pour l'Afrique, avec des pays de l'Afrique subsaharienne avec qui ils ont des accords au niveau de l'agriculture. Et Israël, il y a des ingénieurs agronomes qui vont gratuitement en Afrique pour montrer comment faire pousser les choses dans le désert. La prophétie dit « Israël possédera les montagnes d'Israël ». Verset 12 du chapitre 36 « Sur toi, Israël, je ferai marcher des hommes, mon peuple Israël, et ils te posséderont », en parlant des montagnes toujours. Et nous l'avons vu plus haut, lors de la guerre de 1967, Israël a retrouver les montagnes, la Cisjordanie, ainsi que Jérusalem. Zacharie, chapitre 2, verset 8. Jérusalem sera une ville ouverte à cause du grand nombre d'hommes et de bêtes qui y vivront. Et c'est vrai, aujourd'hui, Jérusalem, c'est une ville. Voilà, on voit les lumières de Jérusalem loin un petit peu. Ça peut nous faire penser quand le Seigneur a dit à Abraham, va, sors et essaye de compter les étoiles qui sont dans le ciel. Voilà, c'était peut-être un peu comme les lumières qu'on peut voir aujourd'hui dans Jérusalem. La prophétie dit, je multiplierai sur vous, les villes seront habitées, on rebâtira sur des ruines. Voilà, les villes ont été rebâties. Aujourd'hui, la ville moderne de Shiloh, donc Silo dans la Bible, est prospère. Bethel, qui s'appelle Beth-El, en deux mots maintenant. La ville d'Ariel, sur le mont Gaash, on le lit dans Josué 24, verset 30, compte plus de 18 000 habitants. Kiryat Arba, c'est une ville près de Hébron, qui est mentionnée dans Josué. Et beaucoup d'autres villes, trop nombreuses pour être mentionnées, sont ces villes prospères. La prophétie parle de la montagne de Seir Edom et dit « Fils de l'homme, tourne ton visage vers la région montagneuse de Seir et prophétise contre elle. Tu lui annonceras, voici ce que dit le Seigneur l'Éternel, je m'en prends à toi, région montagneuse de Seir. » Je déploierai ma puissance contre toi. Et le mont Seir, c'est le territoire d'Édom, dont l'ancêtre, c'est Ésaü. Genèse 36, verset 8, qui dit « Ésaü s'installa dans la région montagneuse de Seir. Ésaü, c'est Édom. » Voilà ce que dit la Bible. Donc, Ésaü, c'est un des un des ancêtres du peuple arabe aujourd'hui. Aujourd'hui, dans la Bible, quand on parle d'Édom, d'Ésaü, d'Amalek, ce sont des peuples arabes, des nations arabes dont on parle. Quand on parle d'Ismaël, des Ammonites, de Lot et des Moabites, on l'a vu tout à l'heure, ce sont les Jordaniens et les Palestiniens. Alors, pourquoi l'Éternel s'oppose à Édom? Et Ézéchiel le dit. Tu as montré, en parlant à Édom, tu as montré une hostilité constante et tu as précipité les Israélites sur le tranchant de l'épée au moment où ils étaient dans la détresse, au moment où leur faute était arrivée à son comble. Notez hein, qu'Israël n'était pas fidèle. Dieu reproche à Édom d'avoir usé des armes contre Israël, alors qu'Israël n'était même pas fidèle. C'est important, ce détail. Et la prophétie dit « C'est pourquoi, aussi vrai que je suis vivant, déclare l'Éternel, le Seigneur, je te mettrai à sang et le sang te poursuivra. Puisque tu n'as pas détesté le sang te poursuivra. Tu as affirmé, les deux nations, ces deux pays, c'est-à-dire les royaumes d'Israël et de Juda, c'est-à-dire l'Israël d'aujourd'hui. Donc je reprends la prophétie. Les deux nations, les deux pays seront à moi et nous en prendrons possession, alors que l'Éternel était là. C'est pourquoi, aussi vrai que je suis vivant, déclare le Seigneur l'Éternel, j'agirai avec la colère et l'acharnement dont tu as fait preuve dans ta haine contre eux. Ainsi, je me ferai connaître au milieu d'eux quand je te jugerai. Tu sauras que moi, l'Éternel, j'ai entendu toutes les insultes que tu as proférées contre les montagnes d'Israël quand tu as dit « Elles sont dévastées, elles nous sont données en guise de nourriture. Vous vous êtes attaqués à moi par votre bouche. Vous avez multiplié vos paroles contre moi. Moi, j'ai entendu. » Ce texte dit que Édom a montré à Israël une hostilité constante. En hébreu, on lit une inimitié, une haine constante, ou on pourrait le traduire par une haine ancienne ou perpétuelle. Alors, d'où vient cette haine? Quand Ésaü a découvert que Jacob avait reçu le droit d'aînesse, bon, le droit d'aînesse, il le lui avait vendu gentiment, hein, mais la bénédiction, quand Jacob a reçu la bénédiction qui devait revenir à Ésaü, il a comploté de le tuer. Genèse 27, verset 41. Ésaü éprouva de la haine contre Jacob à cause de la bénédiction que son père lui avait accordée. Il disait dans son cœur, « Le moment où on mènera le deuil sur mon père va approcher et je tuerai mon frère Jacob. » Lorsque Moïse conduisait le peuple d'Israël vers la terre promise, il a demandé au roi d'Édom la permission de traverser son pays. Et ça lui a été refusé plusieurs fois avec menace. On lit dans Nombre 20, verset 20, « Et Édom répondit, « Tu ne passeras pas. » Et il sortit à sa rencontre avec un peuple nombreux et puissamment armé. Si je me souviens bien, même ils sont arrivés par derrière. Des centaines d'années après, les trois ancêtres du peuple arabe, Édom, Ammon et Moab, se sont ligués pour détruire le royaume de Juda du temps du roi Josaphat. Dans 2 Chroniques 20, versets 10 et 11, qui dit « Et voici, les Ammonites et les Moabites, ainsi que les habitants de la région montagneuse de Séir, tu n'as pas permis aux Israélites de pénétrer sur leur territoire quand ils venaient d'Égypte. Et en effet, ils ont fait un détour et ne les ont pas détruits. Les voici qui nous récompensent en venant nous chasser de ton héritage. » C'est la prière de Josaphat. Hein, « En venant nous chasser de ton héritage, celui que tu nous as donné. » Bon, la Bible raconte la victoire tout à fait miraculeuse du roi. Hélas, encore aujourd'hui, on enseigne dans les écoles de Jordanie, de Syrie, d'Égypte, la haine des Juifs. Dans les livres destinés à des étudiants au lycée, on peut encore trouver ce type de commentaire. Les Juifs d'Europe ont été persécutés et méprisés à cause de leur corruption, de leur cupidité et de leur perfidie. Voilà ce qui est enseigné encore. J'ai repéré un exercice qui était demandé dans un manuel scolaire pour lycée. Le sujet était « Israël est né pour mourir, prouvez-le ». Toujours la question « Pourquoi le Seigneur s'oppose-t-il à Édom ? » À cause des outrages. Le verset 12 du chapitre 35 d'Ézéchiel, « J'ai entendu toutes les insultes que tu as proférées. » Que s'est-il passé ? Les dirigeants arabes ont cru que la Judée et la Samarie leur étaient données en guise de nourriture, c'est ce que dit le prophète. Et en 1948, ces régions ont été détruites par l'armée jordanienne. On leur a donné le nom de Cisjordanie. Et Ézéchiel, au verset 2 du chapitre 36, cite les paroles d'Édom qui dit « C'est bien fait, ces hauteurs millénaires sont en notre possession ». C'est important de signaler que lorsque l'armée d'Israël a repris ces régions en 1967, des milliers d'Arabes sont restés chez eux. Et pour Jérusalem, la mosquée sur le dôme du rocher est restée en place. C'est le général Moshe Dayan à ce moment-là. On lui a dit, bon voilà, ils étaient à Jérusalem, toute l'armée, et ils ont proposé de détruire la mosquée. Et le général a dit non, non. On ne touche pas à ça. C'est resté en place, chose qui n'avait pas du tout été le cas en 1948 où tous les Juifs se sont vus expulsés et leurs biens confisqués. La révolte contre le Seigneur. Le verset 13 du chapitre 35, le Seigneur dit « Vous vous êtes attaqués à moi par votre bouche, vous avez multiplié vos paroles contre moi, moi j'ai entendu ». Et le plan de Dieu a toujours été de ramener son peuple sur sa terre, parce qu'elle lui a été donnée de façon éternelle, promesse faite à Abraham. Depuis 1948, il y a eu de nombreuses déclarations de dirigeants qui ont exprimé leur intention de détruire Israël. Je cite le porte-parole de l'OLP en 1986, Bassam Abou Sharif, qui dit « Le combat contre l'ennemi sioniste n'a pas pour sujet les frontières d'Israël, mais l'existence même d'Israël. » Donc ça n'est pas ce petit lopin de terre qu'ils veulent, c'est bien la disparition d'Israël. Et encore, c'est tellement clair avec ce qui s'est passé le 7 octobre. Les nations... Les nations arabes ne comprennent pas qu'en s'attaquant à Israël, ils s'attaquent à Dieu directement. Bon, prenez le temps de lire les chapitres 35 et 36 d'Ézéchiel pour avoir vraiment un contexte, une vue d'ensemble. En tout cas, le dernier verset du chapitre 36 dit ceci « Les villes en ruines seront remplies de troupeaux d'êtres humains, pareils aux troupeaux consacrés ». Aux troupeaux de Jérusalem pendant ces fêtes, ils reconnaîtront alors que je suis l'Éternel. Notez cette partie-là, ils reconnaîtront. Ça veut dire que le peuple d'Israël, eux aussi, ont besoin de reconnaître. Dieu est Dieu et souverain. Dans le livre d'Ézéchiel, on trouve 59 fois cet objectif de Dieu qui où il dit « On reconnaîtra que je suis l'Éternel » 59 fois dans un seul livre. C'est dire que c'était important. Soit sous les termes « Ils sauront que je suis » ou « Vous saurez que je suis » mais 59 fois. Donc en tout cas, le Seigneur attire l'attention du lecteur des nations, de son peuple, qu'il soit juif ou non juif, le Seigneur s'engage. Dieu va tirer gloire de toutes ces choses. Alors, dans quel but ? On cite toujours Ézéchiel 36, 21 et 23. Pourquoi ? Parce que j'ai voulu sauver l'honneur de mon saint nom. Que profaner la maison d'Israël parmi les nations où elle est allée. Je sanctifierai mon grand nom qui a été profané parmi les nations, que vous avez profané au milieu d'elle quand il parle à son peuple. Et les nations sauront que je suis l'Éternel, dit le Seigneur l'Éternel, quand je serai sanctifié par vous sous leurs yeux. Le Seigneur a châtié son peuple en les envoyant en exil, et les nations ont commis l'erreur de supposer que Dieu les avait rejetés pour toujours. Et croire que l'Éternel ne veut pas ou ne peut pas tenir ses promesses, c'est ça, profaner son saint nom. Parce que ça veut dire qu'on annule sa puissance. Et c'est vraiment un avertissement qui est toujours d'actualité pour ceux qui veulent s'opposer au plan de Dieu pour Israël. C'est un avertissement pour tout son peuple. Profaner son nom devient une pierre d'achoppement pour ceux qui voudraient ou qui pourraient croire en lui. Il y a ce verset, que, je ne sais plus quel est, qui dit que Jérusalem sera une pierre d'achoppement et ceux qui buteront comme elle contre elle tomberont. Hein, c'est vraiment... Dans tout ça, la parole de Dieu est là pour montrer la puissance de Dieu, mais aussi sa fidélité et son amour immense quand il a fait revenir les Juifs dans son pays, à cause de son saint nom. Pas à cause du peuple, à cause de lui. Maintenant, on est informé de ces choses, on ne peut plus dire, bon voilà, je ne savais pas. Et Jésus enseigne que ces choses-là, jusqu'à ce que le temps des nations soit accompli, c'est le signe de la fin des temps, le signe de son prochain retour. Donc, il est tellement important de marcher dans la même direction que le Seigneur. Parce que de toute façon, qui pourra s'opposer ? Qui pourra s'opposer à ce qu'il a prévu ? Job 42, verset 1. Job qui dit « Je sais que tu peux tout et que rien ne saurait t'empêcher d'accomplir les projets que tu as conçus. » Voilà, cette étude il avait vraiment le but de donner une vue d'ensemble de ce que Dieu veut enseigner à son peuple concernant sa volonté. Là où il veut amener Israël, là il veut amener aussi son peuple, l'Église qui est issue de la Nouvelle Alliance. Il ne nous laisse pas dans l'ignorance. Il a inspiré ses prophètes pour nous avertir. Et je trouve qu'on a vraiment une grande chance de voir ces textes bibliques qui sont accomplis dans notre génération. De voir Jérusalem réunifiée, de voir le peuple qui revient encore en Israël. Donc si on voit les temps se raccourcir, s'approcher du retour de Jésus, l'ennemi aussi le sait. Son plan est de détruire Israël parce que de cette manière... Si Israël n'existe plus, le Messie ne pourra pas revenir. Ça veut dire que les prophéties ne pourraient pas s'accomplir. Mais c'est vraiment à ce moment-là qu'il reviendra. Et là, ce sera la fin de l'ennemi de nos âmes. Voyez comment le Seigneur a gardé Israël depuis des millénaires. Combien de peuples ont disparu ? Et Israël, ce petit peuple, est encore là, et non seulement est encore là, mais il fait parler tellement de lui. Il n'y a pas d'autre explication que la fidélité du Seigneur envers son peuple. Et si on regarde la fidélité de Dieu pour Israël, eh bien, sa fidélité pour Israël dépend... De cette fidélité dépend la fidélité pour son peuple d'Israël. Jérémie 31, versets 33-34. « Car c'est ici l'alliance que j'établirai avec la maison d'Israël. Après ces jours, dit l'Éternel, je mettrai ma loi au-dedans d'eux et je l'écrirai sur leur cœur et je serai leur Dieu et ils seront mon peuple et ils n'enseigneront plus chacun à son prochain et chacun son frère, disant « Connaissez l'Éternel, car ils me connaîtront tous, depuis le petit d'entre eux jusqu'au plus grand, dit l'Éternel, car je pardonnerai leur iniquité, je ne me souviendrai plus de leur péché. Et dans ce contexte, si on reprend ce texte-là, dans ce contexte, Israël n'était pas du tout fidèle au Seigneur. Et pourtant, Dieu dit qu'il reste fidèle, malgré sa désobéissance. On peut être sûr que Dieu va faire de la même façon. Deux autres versets que j'aime beaucoup, qui dit « Ainsi dit l'Éternel, qui donne le soleil pour la lumière du jour, les ordonnances de la lune et des étoiles pour la lumière de la nuit, qui soulève la mer et ses flots mugissent, l'Éternel des armées est son nom. » Dieu dit, si jamais ces ordonnances viennent à cesser, c'est-à-dire si d'un jour le soleil ne se lève plus, s'il n'y a plus ces choses-là, viennent à cesser devant moi, dit l'Éternel, la race d'Israël cessera aussi d'être une nation devant moi pour toujours. Ainsi dit l'Éternel, si on mesurait les cieux d'en haut et qu'on sonde les fondements de la terre en bas, si on arrivait à le faire, alors moi, je rejetterai toute la nation d'Israël à cause de tout ce qu'ils ont fait, dit l'Éternel. En fait, Israël, c'est un dépôt de garantie pour nous. Imaginez que Dieu vienne à abandonner Israël. Eh bien, ça voudrait dire qu'un jour, Dieu peut abandonner son Église. On serait toujours là en train de regarder... derrière notre épaule. Psaume 105, versets 8 à 10. Il n'oublie jamais qu'il a fait une alliance, qu'il a donné sa parole pour 1000 générations. Il a conclu un traité avec Abraham. Il l'a confirmé par serment à Isaac. Il l'a confirmé à Jacob en faisant une loi et pour Israël une alliance pour toujours. Et la fidélité du Seigneur pour Israël est la même qu'il a pour nous. Et c'est pour ça qu'il est si important de prier pour Israël. Mais ça, c'est vraiment quelque chose qu'on verra plus loin. Et voilà, c'était aussi la réponse à ta question. Le lien entre Israël et l'Église des Nations, Ésaïe 14, verset 1. Car l'Éternel aura compassion de Jacob, il choisira encore Israël, il les rétablira en repos sur leur terre, et l'étranger se joindra à eux, et il sera ajouté à la maison de Jacob. Et l'Église est ce que le Seigneur ajoute à Israël. J'ai terminé. Merci Seigneur. Vraiment, il ne nous a pas laissés ignorants.
Je voulais juste dire, quand tu disais que voilà, les peuples qui se rassemblent contre Israël et le diable s'insurgit, tout ça, et s'il était détruit, mais. Il n'a pas appris la leçon, le diable. Parce que comme avec Jésus, en pensant qu'une fois crucifié, c'est fini, il n'a pas appris la leçon. Dieu est fidèle. Donc, de la même manière, il va être fidèle vis-à-vis de son peuple et de toutes ses promesses, toutes ses prophéties. Donc, je pense qu'on peut avoir... on a cette garantie. Quand on regarde ce qui s'est passé à la croix, nous pouvons être sûrs que Dieu va être de la même manière fidèle pour accomplir ses promesses vis-à-vis de son peuple, vis-à-vis de l'Église. Voilà, je voulais juste relier ces choses parce que c'est tellement important que le diable, les nations pensent que peut-être ils vont arriver, mais c'est une chose impossible. On ne sait pas demain. Parce que beaucoup de gens s'interrogent, quel sera le résultat? Est-ce que ça sera la grande bataille maintenant? Pas encore. Voilà. Bon. Est-ce qu'il y a des questions? Déjà, un grand merci, Hélène, parce que bon, c'est du travail. Préparer tout ça.
Ouais, merci,
Seigneur. Merci beaucoup. Est-ce qu'il y a des questions, Jean? il suffit qu'un démarre et après c'est parti.
J'ai le mot grâce qui me vient en tête. Le mot grâce. Parce que autant on a pu, Hélène nous a expliqué les promesses, l'histoire, les faits, et pourtant Israël, quelle est sa situation actuelle dans le cœur? Et on sait que dans Romains, chapitre 11, il est écrit au verset 7, « Quoi donc? Ce qu'Israël cherche, il ne l'a pas obtenu. Mais l'élection l'a obtenu tandis que les autres ont été endurcis. Selon ce qu'il est écrit, Dieu leur a donné un esprit d'assoupissement, des yeux pour ne point voir et des oreilles pour ne point entendre jusqu'à ce jour. Et David dit que leur table soit pour eux un piège, un filet, une occasion de chute et une rétribution. Que leurs yeux soient obscurcis pour ne point voir et tient leur dos continuellement courbé. Je dis donc, est-ce pour tomber qu'ils ont branché loin de là? Mais par leur chute, le salut est devenu accessible aux païens, afin qu'ils fussent excités à la jalousie. Or, si leur chute a été la richesse du monde, et leur amoindrissement la richesse des païens, combien plus en sera-t-il quand ils se convertiront tous? Je dis ceci parce que nous, on est l'Église. Comment on se place dans tout ça? Et juste pour dire que... Israël est dans un assoupissement. Ils ne voient pas. Ils ont eu les prophètes, ils ont eu Jean-Baptiste, ils ont eu le Messie, ils ont eu les apôtres. Ils n'ont pas vu. Jusqu'à aujourd'hui. Pourtant, il y a des promesses qui sont attachées à eux. Tout a été dit. Et Dieu est souverain, on le voit. Et ce qui se passe, les événements qui se passent, a pour but, nous le croyons, de ramener le cœur d'Israël à comprendre qu'il y a la grâce dans le Seigneur Jésus-Christ. Et que nous avons, que Dieu choisit son Église. Il a choisi un peuple, il a choisi une Église. La grâce. Vous savez, moi je suis interpellé par la notion de la terre. La terre. Vous voyez ce rapport avec la terre? Des fois on pourrait se dire, mais c'est ma terre. Et puis de toute façon, il y a un acte notarial qui est écrit, qui dit que ça c'est ma terre. Mais vous voyez, avec les générations, avec le temps, les actes se perdent. Les événements se passent, on ne sait plus à qui et quoi. Et encore dernièrement, lorsque j'étais au Congo, j'apprenais à quel point, voilà, quelqu'un achète un terrain et tu n'as pas construit tes murs autour et quelqu'un a pris ton terrain et l'a vendu à quelqu'un d'autre parce que le terrain appartenait à un cousin, à une cousine et entre la famille même, ils vendent le même terrain. C'est compliqué. Nous, on est tellement bien en sécurité avec nos petits actes notariales, mais ça n'a pas toujours été ainsi. La terre appartient à Dieu. Ça, voilà, et il y a une filiation qui est faite comme ça. Moi, je veux juste parler du mot grâce. Le peuple hébreu n'a pas encore compris, mais il est question d'un peuple d'émigré. Tout est grâce pour eux. C'est des émigrés. Dieu fait toujours en sorte de te dire, ah, t'assois pas hein, sur tes acquis, mais rappelle-toi ma grâce. Alors, puissions-nous avoir cette grâce en tant que peuple de Dieu, comprendre tout ce qui se passe autour de nous. Et moi, j'ai hâte d'être rentré dans le deuxième volet dont elle parle, dans la relation avec l'Église. Là, je suis déjà chaud. Ouais.
Justement, sur ce passage que tu cites, le Seigneur dit qu'il va exciter la jalousie du peuple d'Israël avec un autre peuple. Et je dis que l'Église a failli. Est-ce qu'un jour, les Juifs ont été jaloux de nous? Voilà. Et c'est pour ça qu'on va en parler. Est-ce qu'on est mieux que le peuple d'Israël? Est-ce que l'Église a atteint la mission que le Seigneur lui avait donnée? Mais il est toujours temps de le faire. Rien n'est perdu au niveau de chacun.
Mais dans le temps que Israël est encore dans cet assoupissement, la grâce est là. Comprenons hein, que
Dieu tarde avec l'accomplissement de ses promesses pour que le plus grand nombre de personnes puissent encore venir à Jésus. Donc, d'un côté, on aimerait peut-être voir, voilà, que ça s'arrête, que les choses s'accomplissent. Oui, si on est prêt à aller déjà à la rencontre du Seigneur. Parce que les choses vont se précipiter. Mais tant que ces choses durent, il y a encore la possibilité à ceux qui ne connaissent pas le Seigneur de recevoir cette grâce.
Amen.
Parce qu'à un moment donné, tout ça, ça va s'arrêter. Hein. Donc ça, c'est l'Église.
Aussi paradoxal que c'est grâce à nous, l'assoupissement de ce peuple, que nous, on a obtenu.
Bah oui,
c'est à se dire, mais la logique, toi, nous, on est tellement des fois terre à terre, mais non, ça c'est pas bien, ça c'est bien, mais du mal peut sortir le bien. On est loin d'imaginer le contexte, comment Dieu fait les choses. On doit accepter de faire confiance à Dieu. Et ça, c'est pas évident, parce qu'on perd le contrôle. La sécurité, le confort, le contrôle. Mais suivre Dieu, c'est perdre la sécurité, le confort et le contrôle. Ça, c'est facile à dire.
Ce qui devrait susciter dans nos cœurs, c'est l'amour.
C'est
désir de porter ce peuple. Parce que grâce à leur assoupissement, leur endurcissement, ce voile, nous sommes là. Donc, on leur doit ça. Donc, on a une dette quelque part. Donc, au lieu de se laisser influencer parce qu'on entend à droite, à gauche, cette pression, cette polémique, des manipulations médiatiques, on devrait quand même faire plus confiance à la parole de Dieu.
C'est ça.
C'est là que... Je pense que le but, c'est là que nos cœurs puissent comprendre. Voilà. Je suis là, je suis sauvé. Est-ce qu'on réalise? Le but, c'est comprendre ça.
L'apôtre Paul dit qu'il aurait préféré être anathème, être rejeté de son peuple, si ça pouvait être le salut pour son peuple. Vraiment, il était désespéré dans ses chapitres Romains 9 à 11. Vraiment.
Et Moïse aussi a voulu faire ça.
C'est vrai.
Mais non, il n'y en avait qu'un seul qui pouvait. C'était Jésus. Alors vraiment, Jésus, quoi.
Il y a d'autres questions encore.
Oui, je veux rebondir à la haine des
Juifs. Mais ça,
je peux rebondir sur la haine des Juifs. Tu parlais des écoles, tu parlais d'œuvres pédagogiques, mais il y a aussi coranique. Tu détailles fort bien sur l'endoctrinement des enfants à partir de 6 ans. C'est hallucinant. Sur la haine des Juifs.
Oui. Et bon, là, c'est parce qu'on parlait de la terre d'Israël, donc on parlait du Moyen-Orient, et donc forcément, on a affaire à l'islam. Mais cette haine des Juifs, elle est venue très tôt en Europe. Elle est venue très tôt. Le premier acte antisémite, si je me souviens bien, d'un très bon triple documentaire sur Arte, c'était en Égypte, à Alexandrie, où gratuitement, quoi, on a été assassiner les gens dans leur maison, on est venu. Voilà. Comment c'est venu comme ça, petit à petit, et puis ensuite c'est rentré vraiment en Europe et puis, là, l'Église est grandement coupable aussi. Grandement coupable, puisqu'il y a même des passages de Luther. Quand Luther a compris qu'il n'arriverait pas à convertir les Juifs, il a pris une haine pour les Juifs. en parlant, en disant qu'il fallait brûler leur maison, qu'il fallait... Et quand on lit ce qu'il dit qu'il fallait faire, mais Hitler l'a fait. Et il y a eu beaucoup de choses. Notre église, l'église chrétienne, a été la fondation de l'antisémitisme. Bien sûr, pas que ça. Je ne veux pas être réductrice, quelle horreur. Hein. Mais les chrétiens ont longuement contribué. Ah ben on a tué Jésus, c'est eux qui ont tué Jésus, etc. C'est difficile. Et il faut voir la différence d'état d'esprit entre l'Europe et l'Afrique, par exemple, où ils n'ont pas du tout été endoctrinés en Afrique. On leur parle d'Israël. Waouh, c'est un cœur qui est ouvert pour Israël. On sent bien qu'il n'y a pas eu cet enseignement que, sans le vouloir, nous, en Europe, on a baigné là-dedans. Cet antisémitisme, on voit bien que c'est spirituel. Hein.
Et pourtant, depuis la Deuxième Guerre mondiale, cet antisémitisme a envahi le monde, a dépassé les frontières de l'Europe.
Mais oui, quand on voit l'Amérique, l'Afrique du Sud.
Tu vois, et même Amérique, bien sûr. Maintenant dans le monde, depuis la Deuxième Guerre mondiale, on est parti sur une mondialisation, et c'est ce qui va bouleverser sans doute le phénomène des nations qui vont venir envahir, parce que là, on est sur une étape...
Oui.
S'il n'y a plus de questions.
Il y a rien.
Ah, pardon.
Il est timide.
Merci, Hélène. Alors, tout à l'heure, dans ton exposé, tu as notamment en 1948. Qui a parlé d'un général qui avait refusé...
Moshe Dayan. Celui qui avait son œil là, comme ça, là.
Voilà, je n'ai pas gardé le nom. Ouais. Mais, à ton avis, où en serions-nous dans l'histoire aujourd'hui, si éventuellement...
Je ne sais pas où...
Ça me fait penser à ce dont nous avons parlé jeudi. David, qui n'a pas voulu...
C'est respect. Oui. Oui, moi je pense vraiment qu'ils ont bien fait de ne pas toucher. L'important c'est que ils puissent de nouveau que Jérusalem soit une.
Est-ce que le fait d'avoir s'ils l'avaient fait, ça peut-être aurait uni davantage tout le monde musulman, encore davantage contre, parce que ça serait encore un prétexte très important.
Ah, oui.
C'est quelque chose de plus profond qui l'aurait touché.
Oui, on touche à un symbole de foi, un symbole de croyance. Là, on n'est plus du tout dans une histoire de territoire. Non, c'est vraiment sage ce qu'il a fait. Mais il y en avait beaucoup qui se sont dit, on est là, allez, on y va, on détruit tout. Stop.
Ok, je pense qu'on va s'arrêter là pour aujourd'hui.
C'est bien. Midi 5, c'est bien.
Pardon, on peut aller manger? Bon, on a mangé encore hier. Ok, merci beaucoup.